Donc, je me trouve actuellement ici au Flaget. C'est une maison de la culture bruxelloise qui organise chaque année différents festivals comme le Brussels Jazz Festival, le Flaget Piano Days, le Baltic Sea Festival, mais qui accueille aussi le Reine Elisabeth Concours.
Oui. Oh,
mais aussi, il y a une production beaucoup de films aussi. Et donc, je suis ici dans le bureau de notre cher Maarten van Roeselt, qui est responsable de la planification artistique et coordinateur du jazz au Flaget.
Oui.
Donc, pourquoi est-ce que je donne cette petite introduction? C'est aussi pour situer un peu qui tu es. Parce que souvent, c'est justement un programmateur qui fait que la programmation. Mais ton rôle est plus gros que ça. Le jazz fait partie de Flaget, mais ce n'est pas que ça.
Non, pas du tout. En effet, mon rôle est plus large. Je gère le planning, mais aussi la production de toutes les activités culturelles ici au sein de la maison. Et je m'occupe aussi de une partie de la programmation, et ça, c'est justement le jazz. Mais Flaget, c'est pas seulement du jazz, donc on fait beaucoup de musique classique, le jazz bien sûr, mais aussi le volet cinéma est assez large. Donc on accueille aussi des festivals de films comme Anima, comme le Brussels Short Film Festival, comme le Brussels Film Festival. On a notre Studio 5, c'est notre salle de cinéma, où normalement dans des temps normaux, on va dire, on a chaque jour 3 séances, ensemble avec la Cinémathèque. Donc je pense qu'on peut conclure que Flaget, c'est vraiment une maison de son et images, donc musique et cinéma.
Oui. Et donc, on souhaiterait de parler un peu autour du jazz pour la semaine de la musique en Belgique. Quel était l'impact qui a eu lieu mars l'année passée?
Je dois dire que l'impact était assez brut et assez sévère, parce que du jour au lendemain, pas vraiment du jour au lendemain, mais quand même, on a dû clôturer la maison, on a dû arrêter toutes les productions qui étaient prévues. Et ça a beaucoup de conséquences parce que depuis l'ouverture de Flaget, depuis 2002, le bâtiment était ouvert 365 jours par an, jour et nuit quasi. La programmation était prête, était faite, donc on avait encore pas mal de spectacles en vue. On avait le concours Reine Elisabeth qui était annoncé, des festivals de films, Festival Musique 3, donc il y avait plein de productions qu'on a dû annuler du jour au lendemain, annuler ou déplacer vers plus tard dans l'année. Et ça a été une activité que j'ai fait quand même beaucoup ce dernier temps. C'est parce que personne sait ou savait et sait encore jusqu'à quel moment ou jusqu'à quel jour cette fermeture, ce confinement va avoir lieu. Donc on a déplacé les concerts le plus que possible et on a redéplacé les concerts. Et voilà, donc maintenant on espère que quand même, bon, je pense que jusqu'à l'été ça va rester compliqué. Mais on espère vraiment qu'après l'été, qu'on peut quand même retourner vers une normalité, peut-être pas la normalité pré-Covid, mais quand même pouvoir accueillir des gens dans la salle, avoir de nouveau des concerts sur scène. Ça, c'est vraiment notre espoir et j'espère qu'on va y arriver.
Oui. Ça veut dire que les portes de Flaget étaient fermées pour le public.
Pour le public, en effet.
Mais il y a eu toujours des activités qui ont eu lieu.
Oui.
Comment a le Flaget réfléchi à ce niveau-là, de trouver des solutions? Parce qu'avec toutes les activités différentes, il y a des autres solutions. J'imagine pour le cinéma, c'est complètement différent que pour un concert de classique, qu'un concert de jazz.
Oui, mais en rétrospective, donc vraiment, je pense qu'on a fermé les portes le 12 mars. Donc, ça, c'était vraiment un peu brusque. Et puis, on était rentré dans ce premier vrai lockdown parce que c'était encore l'époque où tu pouvais quasi pas quitter la maison, tu pouvais faire des courses, aller faire du jogging tout seul ou promener son chien. Mais pour le reste, on était vraiment confiné. Puis, petit à petit, le gouvernement a quand même décidé que pour des orchestres, par exemple, professionnels, la répétition était de nouveau autorisée, mais ça a pris quand même quelques semaines ou peut-être un mois. Et donc, très vite, parce qu'on a le Brussels Philharmonic en résidence, c'est notre orchestre symphonique. On a le Vlaams Radio Corps en résidence, notre chorale de la maison, on va dire. Et donc, eux, assez vite, ils ont repris, ou assez vite, maintenant il faut que je réfléchisse, mais c'était... Ça a quand même pris quelques mois, si je ne me trompe pas, et je pense que c'était quelque part en mai qu'on a de nouveau eu l'autorisation de continuer à faire des répétitions sans public pour des ensembles professionnels. Maintenant, je dis ça par cœur, donc peut-être je me trompe de quelques semaines, mais c'était quand même pendant, je pense, un ou deux mois, c'était vraiment fermé, fermé, donc sans aucune activité. Mais donc, depuis lors, l'orchestre a continué à faire des répétitions, des enregistrements. On a eu plein de demandes aussi d'autres ensembles, groupes, artistes pour faire des enregistrements, des mini-résidences et puis enregistrer. Donc ça, on a continué d'organiser. Et puis aussi, c'était fin avril, j'ai reçu un mail de Danny Theus, qui est l'organisateur de Leuven Jazz. Il a écrit un mail à certains festivals de jazz, en fait, des organisateurs, avec la suggestion, si on ne peut pas accueillir du public, pourquoi pas faire un festival de jazz online? Parce que aussi, Leuven Jazz, qui a normalement toujours lieu en mars, en fait, c'était le premier festival qui a dû annuler. Et donc, ça, c'était une raison pourquoi Dani a pris cette initiative. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai dit « mais » tout à l'heure, parce qu'à un certain moment, on a eu l'autorisation ou la confirmation du ministre Lennart, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre de la Culture, qui disait que pour des ensembles professionnels, les répétitions ou les enregistrements sans public est autorisé. Et donc, une fois qu'on a eu cette nouvelle-là, alors on a décidé, voilà, on peut vraiment organiser ce bel jazz parce que, au début des discussions, ce n'était pas encore sûr et certain si c'était autorisé ou pas. Et donc, une fois qu'on a eu, et ça, je pense que c'était dans la deuxième semaine de mai, en fait, une fois qu'on a eu cette confirmation, on s'est dit, OK, on y go, on va organiser ce festival.
Et le Belges, c'était un festival qui était mis ensemble de 11 organisateurs de festivals en Belgique.
Oui, exactement. Donc, Dani a pris l'initiative et il a écrit, je pense, à une dizaine de festivals, dont Jazz Middelheim, Gent Jazz, Jazz à Liège, Gaume Jazz. À Bruxelles, il a inclus donc Brussels Jazz, notre festival, le Brussels Jazz Weekend et Bruxelles. Mais donc en tout, il y avait 11 festivals et il y avait aussi Jazz Lab, était un des partenaires, Vibe, le point culturel de la communauté flamande. Il y avait aussi d'autres partenaires du secteur, comme Kick, Backline, qui d'autres. Oui, bon. Alors, en tout, je pense qu'on était vraiment 14 partenaires qui ont porté cette organisation.
Et donc ça, c'était une organisation qui était mise ensemble assez vite.
Oui, ça, c'était vraiment...
petit challenge.
Ça, c'était un vrai challenge, oui, parce que les deux premières semaines, en fait... Le temps entre le mail de Dani et le streaming, le go du festival, il y avait vraiment 4 semaines en fait. Et ça nous a pris plus ou moins 2 semaines de discussion. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Avec qui est-ce qu'on va le faire? Parce que bon, très vite, on a aussi décidé qu'on voulait faire un festival représentatif pour la Belgique. Donc ça veut dire qu'on a cherché un équilibre de festivals des 3 régions. Et donc on ne voulait pas avoir que des festivals flamands ou que des festivals bruxellois ou que des festivals de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, il fallait aussi décider sur ça. On a eu d'autres demandes, d'autres organisateurs, mais à un certain moment, on a dit, allez, on va le faire avec ce groupe-là, parce que c'était bien équilibré, le nombre de festivals de chaque région. Et si on avait demandé ça à tout le monde, alors sur 4 semaines, ça n'aurait jamais été possible de l'organiser. Donc ces 2 premières semaines, c'était vraiment OK, avec qui, comment et qu'est-ce qu'on va faire. Puis on a eu ce feu vert de la ministre Lienaert. Et puis il restait encore 2 semaines de vraiment pour faire la production en soi. Donc voilà, c'était vraiment c'était la course. C'était un marathon et un sprint en même temps. Mais voilà, je pense qu'on peut être très content du résultat. Donc c'était 2 jours de live stream, 2 fois 6 heures avec 24 groupes. Chaque organisateur d'un festival a suggéré 2 ou 3 groupes. Là aussi, on avait vraiment fait attention d'avoir un bon équilibre entre les communautés, hein, quel groupe vient de quelle communauté linguistique, mais aussi on a fait attention à avoir une sorte d'équilibre. Allez, équilibre, c'est jamais possible, mais d'avoir une belle représentation homme-femme. On avait aussi vraiment fait attention de ne pas inviter des big bands, parce qu'à ce moment-là, c'était encore pas du tout clair pour un grand ensemble, avec beaucoup de cuivre, par exemple. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Donc on a aussi invité pas mal d'artistes en solo ou en trio ou quartet. Ici, notre directeur de l'exploitation, il a aussi écrit tout un protocole COVID, hein, pour les techniciens, mais aussi pour les groupes, qui peut toucher quel matériel. Donc il y avait tout un protocole sanitaire. Aussi au niveau du planning, c'était un vrai casse-tête parce qu'il fallait, en fait, les groupes, ils devraient aller, arriver, s'installer, faire le soundcheck, donner le concert et repartir. Et donc, il fallait aussi voir qu'il n'y avait pas trop de croisements ou que les groupes ne se croisent pas. Donc, c'était toute une planification. C'est aussi pour ça qu'on a décidé d'utiliser le plus d'espace que possible à Flagey. Donc, non seulement juste le studio 1 et le studio 4, mais on a fait aussi des concerts sur le toit, dans le studio 2, 3, dans la cafette, etc. Et donc, voilà. Mais je pense que c'était un signal très fort. C'était un bel exemple d'une collaboration entre... Dans la vie normale, on est des collègues, mais aussi des concurrents. Et je pense que là, on a vraiment prouvé qu'on peut aussi vraiment travailler ensemble, on peut collaborer. Et je pense qu'aussi, c'était grâce à cet effort collectif que ça a eu autant de succès, parce qu'on a vendu plus que 3000 places sur 10 jours. Parce que bon, le délai était très court, donc on a mis le festival en vente 10 jours avant le début. Et donc, c'était aussi grâce à... Parce que chaque festival a mis son poids là-dedans, a écrit à ses clients, a fait de la pub vis-à-vis de ses clients. Donc voilà, je pense que c'était une belle réussite, mais c'était une vraie épreuve d'organisation.
Ouais, mais j'ai quand même, et ça c'est un peu les échos que j'ai reçus, qu'il y a quand même un petit manque autour de la solidarité au niveau du choix des artistes. Il y a quand même une dizaine d'artistes qui ont joué deux ou trois fois dans toutes. Il y a Antoine Pierre, il y a Goals, il y a toute une série. Et qu'il y a en Belgique des centaines de musiciens. Et que aussi un des motos, c'était la solidarité pour le jazz belge. Et donc, il y a quand même pas mal de gens qui ont pris ça mal.
D'accord.
Que la solidarité était un peu pour un certain nombre de... bureau de management et toutes des choses comme ça. C'est des échos que j'ai entendus.
Mais oui, sans doute c'est vrai parce que tu ne peux jamais inviter tout le monde tu ne peux jamais non plus contenter tout le monde. Et donc, quand tu fais des choix, choisir c'est perdre, on dit en flamand, kiezen is verliezen. Et donc oui, je peux m'imaginer qu'il y a sans doute aussi des gens qui ont été mal contents ou un peu déçus qu'ils n'étaient pas invités.
Pas uniquement au niveau des musiciens, aussi au niveau du public. Parce que si que, ok, le chiffre c'est chouette, de dire 3000, mais avec 11, 12 organisateurs, comme Jazz Middelheim, Jazz Kent, qui ont souvent plus que 3000 personnes comme audience par jour,
oui, bien sûr.
C'est finalement pas beaucoup. C'est beaucoup d'un côté, mais de l'autre côté...
Oui, mais je pense aussi que, oui, bien sûr, mais je pense que c'est... C'était le premier festival en streaming, en fait, en Belgique. Et pour des vrais amateurs de musique, mais peut-être aussi pour la plupart de la population, une des choses qui rend tout le circuit live unique, c'est vraiment l'expérience d'être là, d'être sur place et de sentir cette symbiose entre public et, ou entre musiciens et le public. Cette magie qui peut exister le soir même. Donc oui, en effet, je peux comprendre que pas tout le monde est très enthousiaste de voir tout un festival derrière son ordinateur, parce qu'en soi, c'est ça. Donc oui, voilà, c'était aussi une première tentation, mais c'était, en fait, le choix est très, très facile. Hein. Soit on organise ce genre de choses, ou soit on ne fait rien. Ou soit on fait comme des répétitions, des enregistrements, où il n'y a pas de public. Et donc on ne peut pas partager ça avec le public, on ne peut pas continuer à créer des liens entre le public et les artistes. On ne peut plus engager des techniciens, on ne peut plus engager les fournisseurs, parce que ça aussi, c'était un des buts. C'était vraiment de donner plus, de nouveau un peu de vie à tout ce écosystème qui faisait plus rien, en fait. Et donc, voilà. Mais maintenant, oui, voilà, je me rends compte qu'il y a toujours des gens voilà, à qui ça ne plaît pas, ou des artistes qui sont peut-être déçus qu'ils n'étaient pas invités. Ça, c'est malheureusement toujours le cas, mais je pense qu'on a quand même essayé de... Allez, 24 groupes, c'est quand même beaucoup sur deux jours. C'est vrai qu'il y a des musiciens qui jouent dans plusieurs groupes, hein, parce que ça aussi, c'est une richesse de notre scène de jazz, que les musiciens ils se connaissent. Il n'y a pas vraiment une barrière linguistique dans le jazz. Il y a beaucoup de néerlandophones qui jouent avec des francophones et vice-versa. Et donc oui, c'est vrai que Bert Kools, par exemple, il a fait un solo, mais il joue aussi dans le band d'Antoine Pierre, par exemple. Idem pour Jean-Paul Estévenard. Il était là avec son propre quintet, mais il joue aussi avec Antoine Pierre. Donc oui, ça c'est... j'aimerais voir ça comme une richesse, mais je me rends aussi compte que certaines se sont exclues. Ouais,
parce que la richesse en Belgique, c'est beaucoup plus que ça.
Bien sûr.
Et c'était un gros manque à ce niveau-là, artistiquement.
Oui. Mais écoutez, c'est comme j'ai dit, chaque ordinateur avait le choix libre d'inviter des artistes que lui voulait. Et ça, c'était le résultat. Donc, voilà.
Mais je ne suis pas ici pour justement critiquer ça. Pas du tout. Mais quelle est maintenant l'expérience? Parce que aussi, comme dans le jazz, une chose qui est très importante, c'est l'improvisation. Ouais. Et l'improvisation se fait souvent en interaction avec le public. Avec les musiques classiques, c'est différent. Tu peux mettre un orchestre, il peut jouer...
Avec ou sans.
Voilà. Oui. Ça change un petit peu, mais pas énorme. Mais pour le jazz, ça a une grande implication.
Exactement.
Maintenant, on est presque un an plus loin, plus tard. Comment tu vois pour le streaming dans le futur? Parce qu'on est encore en route pour quelques mois, peut-être un demi-an. Oui. Comment tu le vois et comment... Parce qu'aussi maintenant, avec toute l'expérience, vous pouvez s'imaginer, OK, peut-être qu'on peut mieux le faire comme ça ou comme ça. Aussi ceux qui le font, les caméramans, toutes des choses comme ça, avec leur expérience, peut changer pas mal des choses.
Oui, mais comme j'ai dit, je pense que le streaming, c'est, en fait, pour moi, c'est le the next best thing. Hein. C'est, pour le moment, c'est soit on fait des choses en streaming ou soit on fait rien. Ou, je veux dire, rien dont le public peut être témoin. Hein. Donc, quand on organise des enregistrements ou des résidences ou des répétitions, c'est chouette pour les artistes parce qu'ils peuvent continuer à bosser. Mais il n'y a rien pour le public. Donc je pense qu'à ce moment-ci, le streaming, c'est vraiment la meilleure chose à ce moment. Mais je suis très conscient que ça ne peut jamais, jamais remplacer l'expérience en live. Mais on a, parce que pour le Brussels Jazz, donc en janvier, on a fait aussi une streaming edition. Parce que pour revenir à ta question pour l'impro et la nécessité d'avoir du public pour l'artiste, c'est tout à fait raison, mais on a eu par exemple Alex Coe pendant le festival.
Un jeune pianiste belge-japonais.
Ouais, exactement, belgo-japonais, qui était là en trio avec Ralph Alessi à la trompette et Attila Guiar-Fass, un batteur donc hongrois. Pardon, oui. En fait, leur musique... Il m'a dit ça après. Ils n'avaient pas de setlist. Le premier morceau, c'était vraiment un morceau de leur disque parce qu'ils viennent de sortir un disque. Mais tous les morceaux d'après, c'était de l'impro. Il a fait ça sans public avec des musiciens qui sont aussi vraiment top, Alex aussi. Hein. Et donc, ça a assez bien fonctionné. Mais il disait aussi qu'après chaque morceau, il se sentait nu en fait parce que comme musicien, tu t'attends à une sorte de réaction de ton public. Soit ils ont aimé, soit ils n'ont pas aimé, mais en tout cas, tu attends une sorte de confirmation quasi de ton public qui te pousse aussi vers une direction ou qui te stimule de faire encore, d'aller plutôt dans ces directions-là ou ces directions-là. Donc, il m'a dit que c'était quand même une expérience très, très bizarre pour lui. Il a littéralement dit je me sentais nu en fait sur scène après chaque morceau, c'était très bizarre. Mais quand même, je pense que si tu étais vraiment des bons musiciens, faire de l'impro est tout à fait possible sans public. Bien sûr, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose pour le musicien sur scène et c'est pas la même chose pour les gens qui sont derrière leur écran. Donc ça, oui, ça en effet, ça c'est sûr et certain, mais je pense que c'est quand même possible. Alex Coe l'a prouvé, en fait.
Oui, je pense aussi, c'est pour beaucoup de musiciens, une sorte d'adaptation.
Oui.
Aussi, je me souviens, au début de l'été, qu'il y a eu quand même quelques festivals qui ont eu lieu, c'est en juillet, oui. Et là, on constatait que les musiciens pouvaient jouer devant le public, mais c'était vraiment dur pour eux.
Bien sûr.
Parce qu'ils n'étaient plus habitués de jouer devant le public. Et avec les mesures installées, c'était compliqué, le lien n'était plus là.
Oui, bien sûr. J'étais aussi à plusieurs festivals cet été où c'était obligatoire de rester assis derrière la table. Il y avait des serveurs qui venaient ou des serveuses qui venaient vous servir à la table. Et bien sûr, ça change tout, mais je pense Oui, à un certain moment, en fait, avec le streaming aussi, juste pour encore revenir une fois là-dessus, aussi pour nous en tant qu'organisateurs, mais aussi, bien sûr, pour les musiciens et aussi pour le public, en fait, c'est quasi de faire un autre métier. Organiser des concerts en live ou des festivals, ça a toute son façon de faire, son dynamique, l'énergie qui est là entre toujours avec le public et les musiciens. Maintenant, quand tu fais un streaming, en fait, tu changes aussi un peu de métier, aussi pour nous. Et donc, tu apprends aussi beaucoup de choses. Il faut repenser tout ce que tu es en train de faire parce qu'en fait, tout d'un coup, tu es en train de construire quasi une émission de télé. Allez, bon, pas de télé, mais une émission en tout cas. Il faut, donc, il y a d'autres mesures, d'autres dynamiques, d'autres règles qui sont appliquées à ce moment-là. Et donc, c'est ça aussi, par exemple, on a demandé à nos musiciens, on leur a expliqué, voilà, les caméras sont là et là, bien sûr, mais ce sont des petites caméras comme ça. Mais veuillez aussi, à un certain moment, vous adresser au public en parlant, en regardant dans la caméra, en t'adressant dans la caméra. Pour eux, c'était aussi une nouvelle chose qui est peut-être un peu forcée aussi, mais quand même, ça, c'est un des moyens de créer un peu plus de connexion quand tu les regardes dans les yeux, on va dire, et quand tu regardes dans la caméra. Donc ça, c'est des petites choses que voilà, les musiciens doivent s'habituer à ça, mais nous aussi, c'est quelque part aussi, on apprend un nouveau métier, à quelque sorte, je veux dire.
Et aussi, comme ici, c'est une maison avec un studio de qualité au niveau du son. Mais pour les gens à la maison, il y a des gens qui le regardent sur leur GSM ou sur un écran ordinateur avec un son pourri. Ouais. Vous pouvez investir un maximum d'avoir le meilleur son, mais tu ne sais jamais pour la personne qui est à l'autre côté de l'écran comment il va l'écouter et ça change complètement
ça, c'est sûr.
L'expérience.
Mais en même temps, il faut quand même, en tant qu'organisateur, faire tout pour avoir un high-end quality au niveau du son et de l'image. Ça, c'est la base. Si vous n'investissez pas là-dedans, donc si vous le faites plus avec votre propre caméra AD et quelques micros à gauche et à droite, alors il vaut mieux pas le faire. Il faut vraiment, ça c'est la base du streaming, c'est vraiment prévoir la plus haute qualité dans le son et l'image. Et comment les gens, le récepteur derrière son écran, comment le spectateur, on va dire, comment lui, il voit le résultat, soit sur son smartphone, soit sur son laptop, ou soit c'est quelqu'un qui branche son laptop à son système Hi-Fi ou sa télé, et il voit ça dans une autre qualité. Alors là, allez, moi, je suggère à tout le monde, si vous regardez un streaming, il faut brancher votre ordinateur à votre chaîne Hi-Fi ou soit à votre télé avec des baffles qui sont bonnes. Parce que, voilà, mais donc, ce que je veux dire, c'est vraiment, en tant qu'organisateur, il faut vraiment investir dans la qualité d'enregistrement et de la captation, parce que sinon, il faut mieux pas le faire, je trouve.
Donc, c'est-à-dire la base qui est très importante.
Mais ça, c'est une chose qu'on a aussi appris. Hein. Par exemple, on a tout au début du lockdown en mars de l'année passée, on a organisé Flagey chez soi et c'était à des artistes de la maison, on va dire. On a demandé de faire un petit clip de chez eux. Et là, tu voyais vraiment, parfois c'était bien fait avec du matériel de qualité, parfois c'était fait avec leur iPhone ou je ne sais pas quoi. Et alors, la différence en qualité entre chaque clip, bon, c'était sympa à ce moment-là pour faire quelque chose, mais voilà, là, on s'est dit aussi, bon, si on veut encore continuer dans ce streaming, alors il vaut mieux qu'on le fasse chez nous, avec du matériel adéquat, parce que sinon, tu peux pas...
C'est chouette pour une fois, pour 5-10 minutes, c'est chouette.
Ouais.
Waouh, ça existe encore, mais
ouais,
c'est pas pour quelque chose de dire, je vais m'installer chez moi à la maison, regarder. C'est justement le contraire. L'effet est complètement contraire à ce moment-là.
Ouais.
Mais c'est un bon initiatif.
Voilà, mais c'est comme ça que, tu vois, tout d'un coup, tu tombes dans une situation que personne n'a expérimenté. Cette lockdown, une virus, pandémie... Notre génération, il n'y a personne qui a connu ça. Et donc aussi, en tant qu'organisateur, tout d'un coup, tu te retrouves dans une situation où il faut vraiment se repenser, il faut vraiment repenser tout. Et ça se fait par un parcours avec, en anglais, dit trial and error. Et on essaye, et il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins réussites. Et donc, tu tires tes leçons de cela et tu essaies de le faire mieux la prochaine fois.
Ouais, il faut chaque fois essayer d'améliorer les choses.
Donc, dans ce cas-là, c'est en effet, comme tu viens de dire tout à l'heure, que c'est aussi une période de challenge. Hein. Donc, on est confronté à une nouvelle situation qui est au première vue très pénible et vraiment catastrophique presque. Mais en même temps, voilà, ça nous donne aussi des possibilités d'essayer d'autres choses, d'essayer d'autres formats, maintenant avec ce streaming, de voir ce qu'on peut faire avec ça. Les lieux sont plus disponibles, donc de faire des résidences, etc. Donc voilà, il faut toujours trouver ou essayer de trouver les possibilités dans les défis. Hein. C'est ça un peu ce qu'on est en train de faire tous, je pense.
Tout à fait. Et maintenant, une question qui vient s'imposer de plus en plus, c'est le live streaming, c'est quoi ? Et aussi au niveau des droits d'auteur. Tout le monde a directement commencé de le faire, mais maintenant pour les artistes, ils commencent à se poser la question, comment avec les droits d'auteur, quelle est ton expérience à ce niveau-là ?
C'est une très bonne question, et c'est une question très importante, parce que les droits d'auteur pour les artistes, c'est hyper important que ça s'est bien géré. Mais il y a plusieurs choses. Je pense que tout d'abord, au niveau du streaming, en fait, le streaming, à mon avis, ça ne va plus jamais disparaître. Même si on va, allez, je pense que jusqu'à l'été, on va être obligé de l'utiliser, cet outil, parce que moi, je crains qu'il y aura peu de choses possibles avant l'été, hein, avec du public dans la salle, je veux dire. Mais aussi, une fois qu'on peut de nouveau accueillir du public, je pense que ce streaming va rester quelque chose de complémentaire, en fait. Donc, ça va, à mon avis, on va vraiment évoluer vers une situation où tu as... À un certain moment, tu as le choix d'acheter un ticket physique. Voilà, il y a 800 places dans notre studio 4. Il y a 800 tickets. Soit tu viens sur place et tu achètes ton ticket physique, ou soit tu achètes un ticket numérique, on va dire, digital, qui sera sans doute pas du tout le même prix qu'un ticket physique, mais tu peux aussi avoir le choix de suivre ce concert de chez toi.
C'est notre expérience, mais...
Ouais, c'est une autre expérience, ça coûte moins cher, mais au moins tu auras le choix aussi de regarder ce concert si tu veux pas ou peux pas, ou si tu habites dans un autre pays et tu veux quand même suivre ce concert. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense aussi que nous, on croit vraiment fort dans le fait que du streaming, ça doit être aussi payant. Je pense que tout est début, hein, on vient de parler de Flagey chez soi et tous les petits concerts du living room que chaque artiste a donné. Il a donné du contenu gratuitement à tout le monde, sans, parce qu'on parlait des droits d'auteur, sans qu'il n'y ait personne qui va payer ces droits d'auteur. Donc je pense que pour plusieurs raisons, un streaming doit être payant. Tout d'abord parce que c'est très coûteux, hein, donc ça demande un grand investissement de l'organisateur. Deuxième chose, c'est aussi le seul moyen de vraiment contrôler ces droits d'auteur, parce que après le Bell Jazz, après Brussels Jazz, on a aussi rempli la fiche de Sabam et on a aussi déclaré les morceaux qui ont été joués. Tu peux voir exactement combien de tickets tu as vendus, combien de spectateurs que tu as eu, et sur cette base-là, alors la Sabam calcule le droit d'auteur et les artistes sont rémunérés correctement. Donc ça, c'est aussi... Allez, une des raisons pourquoi ça doit être payant. Et troisièmement, je trouve aussi, en fait, la culture n'est pas gratuite. Et je pense que si tu offres l'Internet tout ce que tu veux, en fait, de façon gratuitement, la seule chose que tu payes, c'est ton abonnement d'Internet. Mais pour moi, en quelque sorte, si un contenu est gratuit, alors tu dévalorises aussi un tout petit peu ce contenu, je trouve. Tandis que, par exemple, je reprends l'exemple d'Alex Co, il a présenté son nouveau disque, ça a demandé beaucoup de mois de préparation, d'écriture. C'est vraiment l'artiste qui a produit son œuvre, en fait, qui a invité des artistes de l'étranger, qui a payé un studio d'enregistrement, qui a travaillé avec un label pour sortir son disque. Donc ça représente tout un investissement artistique, intellectuel et musical d'un artiste. Et donc ça mérite d'être payé, en fait. Et donc, quand il vient présenter son disque, OK, maintenant c'est en streaming parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais je trouve que les gens doivent payer pour cela. Donc voilà, ça, c'est, pour moi, ce sont des raisons pourquoi ce streaming doit être payant. Mais maintenant, je suis aussi, bien sûr, allez, si on demande un prix comme 10 ou 15 euros ou peut-être 20 euros pour un concert physique, je pense pas que ça sont des prix qu'on peut demander pour un streaming. Hein, ça doit être beaucoup moins cher. Mais ça doit rester payant. Et aussi, une des raisons, c'est aussi justement pour pouvoir protéger ces droits d'auteur des artistes, en fait. Ça, c'est le seul moyen, quand tu fais des choses en ligne, qui te rassure et qui assure aussi l'artiste d'être payé de façon correcte. C'est aussi donc avec Brussels Jazz ou avec les Bell Jazz Festival, les détenteurs d'un ticket, donc ils pouvaient voir le stream au moment même du streaming, mais ils avaient aussi encore accès pendant 48 heures pour revoir des choses, pour revoir des interviews, etc. Et après 48 heures, c'est plus online. Donc c'est pas comme sur YouTube, tu uploads un clip et ça reste là pour l'éternité. Non, maintenant c'est pour ce festival, voilà, c'est pendant ce moment-là, pour des détenteurs de tickets, pendant 48 heures, et puis c'est offline. Et voilà, donc... pour répondre à ta question, ça c'est la manière pour garantir un paiement correct au niveau des droits d'auteur pour les artistes. C'est que ton streaming est payant et il est pour un certain nombre d'heures ou de jours ou même une semaine online, mais uniquement pour des détenteurs des tickets.
Comme actuellement, je pense aussi ici, les streamings sont souvent déjà pré-enregistrés.
Oui.
Si que l'idée c'est de le diffuser durant un concert, c'est différent. Est-ce que vous avez réfléchi à ce niveau-là ?
Bien sûr. En fait, je peux te donner deux exemples. Donc, pour le Bell Jazz, vu qu'on avait 24 groupes sur deux jours, deux fois 6 heures de streaming, en fait, là, mais aussi pour des questions pratiques, on a décidé de... En fait, c'était quasi la moitié était pré-enregistrée les jours avant et la moitié était vraiment du live stream, en fait. Ouais. Parce que voilà, on voulait aussi offrir à notre public l'idée que c'est vraiment du live. Allez, on n'a jamais caché que la moitié était préenregistrée, mais on voulait aussi vraiment leur offrir quelque chose du moment même. En fait, la leçon qu'on a tirée de cela, il y a deux points. C'est d'abord, ça coûte plus cher de faire ça en live stream, le live stream en direct. Parce que les équipes doivent être sur place, les équipes techniques, et il s'agit toujours de beaucoup de personnes.
C'est beaucoup plus nombreux d'être sur place.
Ouais. Donc c'est pour ça que ça coûte plus cher. Et plus, ça augmente le niveau de stress considérablement, parce qu'il y a toujours, c'est du live, donc il y a toujours des possibilités, des problèmes techniques qui peuvent s'arriver. Et donc c'est pour ça que pour le Brussels Jazz, par exemple, les 4 concerts étaient pré-enregistrés. Donc ça te donne en fait... une marge dans le temps. S'il y a des problèmes techniques, alors on a encore le temps de les corriger. Mais pour le Brussels Jazz, il y avait une deuxième raison, c'est aussi parce qu'on a créé en fait du contenu supplémentaire. Donc c'est-à-dire, il y avait aussi, on a fait des interviews avec des artistes, on a fait des petits clips du backstage avec les musiciens. Donc en fait, du contenu que normalement, un public, quand tu vas à un concert physique, tu n'as pas ça. Et donc, je pense que pour rendre le streaming vraiment intéressant, il faut aussi offrir du contenu supplémentaire. Et donc, pour faire ce contenu supplémentaire, et là, il fallait vraiment faire du montage de cela. On avait besoin il y avait, en fait, c'était l'enregistrement jeudi. Vendredi, on a fait les montages et samedi, c'était le live stream. Et donc, on avait vraiment, ça nous a épargné beaucoup de stress. Le jeudi même, on avait le temps de recommencer s'il fallait, mais en fait, on n'en avait pas eu besoin. Mais le vendredi, on a eu vraiment le temps de monter en fait et d'éditer les clips supplémentaires qu'on a tournés. Et comme ça, tout était prêt pour samedi. Parce qu'un live stream, en fait, tu peux faire un live stream de quelque chose qui a été préenregistré. Hein. Le live stream, ça veut dire vraiment, là, ça commence à 8 heures. Et si tu commences à regarder à 8h30, tu as raté le premier demi-heure. Mais bon, tu auras l'occasion de revoir ça par après. Mais ça, c'est vraiment du live stream. Mais voilà, ouais.
Oui. Si c'est vraiment un vrai live, entre parenthèses, pour les musiciens, il y a le petit stress qui reste là. Autrement, ils ont toujours un peu l'opportunité de dire, on va attraper, on a fait une erreur, on peut refaire.
Oui, mais je pense, avec l'expérience que nous, on a eue, une fois que tu dis aux musiciens, voilà, le concert commence, ils y vont et ils foncent. Et comme j'ai dit, personne, on a dû... parce que bon, la captation, ça c'est la captation d'un concert en live, donc il y a aucun groupe, même aussi pour le Bell Jazz, là on a quand même pré-enregistré 12 concerts, il n'y avait personne qui a demandé, oh non, il faut qu'on recommence. Donc c'était vraiment, ils commençaient à jouer, on a capté jusqu'à la dernière note et c'était en un take, on va dire. Donc voilà, donc ça change pas grand chose si tu le fais vraiment en direct, le live stream, ou pré-enregistré et puis en live stream. Le résultat reste le même en fait.
Ouais. Comment tu vois le futur maintenant? il y a un jour que les portes vont se réouvrir.
Mmh, oui.
Le problème, c'est... Ah, le
j'ai
problème.
Hâte.
Ouais. Il y a un jour, et ouais. On va espérer un jour que c'est dans une condition normale, comme avant la pandémie, pas avec des mesures, je ne sais pas quoi, mais vraiment le vrai concert. Parce que aussi, et ce n'est pas uniquement ici, c'est dans tous les lieux, il y a un public fidèle. Donc là, souvent, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des gens qui venaient occasionnellement. Et il y a quand même un grand risque parce qu'un an, un an et demi, plus des concerts. Comment des nouveaux attrapés qui viennent vraiment voir des concerts? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont maintenant habitués de voir les streamings et toutes des choses comme ça. Tu as déjà réfléchi à ce niveau-là et quelles sont les choses que tu penses qu'il faut le faire pour à ce moment-là?
Mais il y a plusieurs choses. Tout d'abord, en fait, cet été, on avait organisé Flagey on Air. C'était pour la première fois, parce que normalement, on était Flagey fermé. Mais pour la première fois depuis son existence, on a décidé de faire quand même des concerts chaque dimanche. C'était chaque dimanche et c'était une collaboration avec Musique 3. Donc c'était une programmation surtout classique, mais aussi quelques concerts de jazz. Et c'était en direct sur l'antenne de la RTBF. Donc là aussi, c'est une autre possibilité qu'on a déjà testée. Donc pas à travers les fibres optiques en streaming, mais à travers les ondes radiographiques via les radios. Et c'était juste, je pense que quelques semaines avant le premier concert, donc c'était mi-juin ou début juin, on a quand même eu l'autorisation de nouveau accueillir du monde dans les salles. Je ne sais pas si tu te souviens encore, c'est pour ça que tous les festivals de l'été a pu se faire.
Oui, hein, tout à fait.
C'était limité à 100 et puis après à 200 personnes dans notre salle. Et donc on était très curieux parce que ce n'était pas prévu. C'était prévu de faire des concerts en direct dans la salle et en direct sur la radio, mais donc cette fois-ci vraiment en direct, hein, du vrai live.
Oui.
Et voilà,
avec du stress.
Oui, voilà. Et donc deux semaines avant, ou trois semaines, je ne sais pas exactement, on a eu l'autorisation d'ouvrir de nouveau les portes pour 100 et plus de 200 personnes. Et donc on était très curieux pour voir, est-ce que les gens vont revenir? Est-ce qu'ils osent revenir? Est-ce que c'est en plein été? Est-ce que pas tout le monde sera parti, etc. Eh bien, tous les concerts étaient sold out, étaient complets. Bien sûr, c'était d'abord pour 100 personnes, puis pour 200 personnes, donc ce n'est pas une salle de 800 personnes. Mais quand même, ça nous a assuré quand même que, OK, il y a quand même encore cette envie, cette demande, cette, oui, une sorte de fidélité ou une sorte de curiosité encore chez le public de voir, de venir soutenir les artistes, de soutenir Flagey, de venir sur place. Et donc, on était vraiment pas agréablement surpris, mais quand même... C'était un sentiment agréable pour être rassuré quelque part que le public veut revenir. Et puis après, on a pu encore continuer en septembre et octobre hein, aussi avec du public. Et c'était pareil, c'était à chaque fois sold out. Mais c'était en fait, à partir de septembre, je pense, nous, on a eu l'autorisation d'aller jusqu'aux 450 personnes dans le studio 4 et 100 personnes dans le studio 1. Eh bien, ces concerts-là étaient complets. Je pense tous les concerts, en fait, étaient vraiment complets. Donc voilà, quelque part, ça c'est quand même rassurant, mais je pense que mi-octobre, quelque part, on était de nouveau obligé de fermer les portes. Donc voilà, personne ne peut regarder dans le futur, mais on reste quand même assez confiant en fait que le public va revenir. Tout dépendra bien sûr des mesures sanitaires. Je pense qu'au début, ça va être un peu comme en été, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, pas de bar ouvert. Obligation de porter le masque, venir au concert et puis partir directement après. J'imagine que dans les premiers stades, ça va être quelque chose comme ça. J'espère que... Mais bon, Dieu sait à quel moment ça va être, mais à un certain moment qu'on peut vraiment de nouveau retourner à une normalité, c'est-à-dire salle pleine, bar ouvert. Mais moi, j'ose plus dire quand ça va être. Le plus tôt que possible, ça c'est notre espoir, mais, ou notre espérance, ou notre volonté, pardon. Mais voilà, ça ne dépend pas de nous. Mais donc, ouais, c'est difficile à dire, mais nous, on garde quand même vraiment cette confiance dans notre public qui vont revenir. Je pense que les gens, c'est ça qui nous a montré la situation en été et septembre-octobre, que les gens, ils ont soif, les gens, ils ont envie de nouveau vivre un concert en direct, de vivre cette rituel, hein, c'est un rituel en fait, de se rassembler, de se mettre dans une salle et de profiter de quelque chose qui est tellement éphémère comme de la musique. c'est quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose qui touche chacun, chacune directement dans son cœur. Donc c'est quelque chose de mythique quasi, hein. Et ça les gens, ils ont, moi je suis convaincu que c'est vraiment, ça fait partie des besoins primaires de l'être humain en fait. Donc dans ce sens-là, j'ai vraiment confiance que le public va revenir, mais peut-être, je sais pas, peut-être on va perdre une partie de notre public qui est plus âgé, je sais pas. Peut-être eux, ils auront plus peur, ou peut-être eux seront tous vaccinés et aussi, allez, rassurés. Et je sais pas. Ça c'est un peu ça. Le temps nous racontera, mais en soi, on a vraiment confiance que le public va revenir.
Aussi, dans cette période-là, vous avez l'avantage que beaucoup de lieux ne pouvaient pas faire des concerts et que les gens ont vraiment faim de voir quelque chose.
Oui.
Ici, c'est normalement 365 jours par an qu'il y a presque quelque chose qui se passe.
Oui, exactement.
Donc ça peut... Je pense plutôt à ce niveau-là. Je pense les premiers mois, pas de souci, tout le monde est en vie, tout le monde veut y sortir parce que c'est une partie de socializing. Au moment que les bars peuvent se rouvrir, il y a plein de choses qui vont changer. Parce que je me souviens... comme on vient de dire au départ, que tu étais aussi à quelques festivals de l'été. Là, on voyait aussi souvent qu'une partie du public venait uniquement pour le socializing, pour papoter, pour ne pas écouter de la musique.
Oui, exactement.
À la fin de l'été, c'est déjà un peu changé. Voilà, c'est des choses que j'imagine, comme vous, comme organisateur, tu dois être conscient et de penser comment...
Oui, je pense qu'en tout cas, une fois que... on va rentrer de nouveau dans une normalité où tout sera autorisé de nouveau. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire parce que tous les organisateurs, non seulement dans la musique, mais dans le théâtre, la danse, tous les arts, toute forme d'art, l'opéra, etc. Tout le monde va vouloir offrir des choses au public. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à regarder, à écouter. Mais voilà, je suis très curieux comment ça va se faire, mais nous, on reste assez confiants que notre public va revenir.
Et aussi, comment est-ce que le paysage est changé des musiciens?
Oui, ça aussi.
Parce qu'aussi, il y a un certain nombre qui vont continuer de travailler, mais il y a un risque qu'il y ait un certain nombre qui doivent arrêter, qui doivent changer de métier.
Ça, on voit déjà aujourd'hui, hein, qu'il y a des musiciens qui ne peuvent plus payer leur loyer ou leur hypothèque sur leur maison. Ils sont obligés de changer de métier ou de faire des métiers entre-temps. Et oui, mais non seulement dans la culture, mais aussi dans l'économie, dans sa globalité, dans l'horeca, les bars, les cafés, les restos, des petites entreprises. Je pense que 2021, quelque part, c'est une année de l'espoir, hein, parce que tout le monde a l'espoir que les choses vont retourner vers la normalité, mais ça va être aussi une année assez dure, je pense, parce que la crise va devenir très visible dans cette année-ci, et je pense qu'il y aura quand même aussi beaucoup de drames personnels pour certaines personnes, pour certaines sociétés, pour certains établissements horeca, et oui, ça c'est sûr, ça c'est... Écoutez, cette crise dure quasi un an maintenant, hein, et ça c'est dur pour tout le monde, et surtout pour des gens qui se retrouvent comme des musiciens dans des statuts faibles ou des statuts... un musicien est engagé par jour, hein, si nous on signe un contrat avec un musicien, alors c'est un contrat pour un jour. Mais le reste de l'année, il doit aussi acheter son pain ou nourrir ses enfants, donc... Donc oui, j'ai déjà entendu pas mal de drames personnels, vraiment, des musiciens qui sont vraiment dans des situations pénibles et, de façon économiquement. Donc oui, c'est très dur. C'est très dur pour plein de gens.
L'aspect économique va encore venir. Oui, tu vois, une fois que la pandémie est terminée, il y a l'économie qui va suivre. Et là, qu'est-ce que le gouvernement va faire avec les subventions à des institutions comme ceci ici? Est-ce qu'ils vont le continuer plein de choses. Donc, beaucoup de questions ouvertes pour l'instant.
Mais c'est pour ça que tout le monde dit que voilà, on va de nouveau rentrer dans la normalité. Mais moi, je pense que ça va être un autre monde.
Hein. Voilà, tout à fait.
Et espérons qu'il va rassembler beaucoup à notre monde précédent, quoique peut-être pas sur le plan économique et néolibéral. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Mais ça va être quand même un autre monde parce que il y a vraiment des victimes de la crise, non seulement des victimes de santé et des gens qui ont vraiment subi la maladie, mais aussi des victimes économiques où, Oui, on va quelque part, on va se réveiller dans un autre monde, je pense. Ouais,
voilà, donc je pense que ça va être un très bel challenge pour vous, toute l'équipe.
Oui.
Et comment est-ce que l'équipe de Flaget vit avec ce changement?
Oh, mais oui, comme j'ai dit, c'est dur pour tout le monde. C'est dur. Au début, on a essayé de garder le plus que possible des gens employés et donc de mettre personne au chômage technique. Heureusement qu'on n'a eu aucun licenciement, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais à un certain moment, on était aussi obligé de mettre une partie de notre équipe au chômage technique. Ça c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Il y a une bonne partie qui soit ils sont au chômage technique. Je pense à beaucoup de nos techniciens notamment. Quasi tout le monde est en télétravail. Allez, je veux dire les autres qui ne sont pas en chômage technique. Voilà, donc oui, ce n'est pas évident pour notre équipe non plus. Mais comme j'ai dit, tout le monde garde son salaire. Donc ça, c'est déjà c'est la chose primordiale, je pense. Et ça, c'est une bonne chose. Personne n'a été licencié. C'est aussi très important. Et voilà, tout le monde a vraiment beaucoup envie de reprendre leur boulot et que Flaget puisse de nouveau devenir un paquet boat où il y a tous les jours des activités. Donc tout le monde on a hâte de revenir travailler. Quoi. Oui, je pense que ça c'est pour tout le monde et de partout pareil. Hein.
Parce que j'imagine pour la motivation, c'est pas...
Non, c'est un défi, c'est vrai. C'est un défi, surtout parce que voilà, on avait... Tu vois, notre métier, tu planifies un an, deux ans en avance, tu as plein de projets, plein de festivals, plein d'autres projets très particuliers. Voilà, ça tombe à l'eau. Il faut déplacer, il faut annuler. Mais bon, moi, je reste aussi très, très confiant, je veux dire, qu'on a pu déplacer quand même la plupart de nos concerts. Certains, on a malheureusement dû annuler, ça c'est sûr, mais on a quand même... pu déplacer beaucoup de concerts vers l'automne de cette année-ci. Donc moi, j'espère vraiment qu'en automne, les choses seront normalisées, plus ou moins, entre parenthèses, normalisées. Voilà, moi je garde toujours cette lumière au bout du tunnel dans ma tête et j'en suis sûr qu'un jour, on va y arriver. Mais, donc il faut pas perdre l'espoir, mais c'est dur, oui, ça c'est sûr. C'est dur.
J'imagine aussi, comme un organisateur, tu as aussi des nouvelles idées. Mais comme il y a déjà plein de choses qui sont reportées, des nouvelles idées n'ont pas directement... Ce n'est pas possible de donner une place. Donc, c'est à nouveau de repousser aussi ces idées-là. C'est un peu...
Mais les prochaines saisons qui vont venir, c'est vraiment des saisons qui vont être un peu mixtes. Parce que c'est vrai, par saison, parfois, il y a une thématique ou il y a une thématique par festival ou il y a des liens entre des festivals et tout ça. Et tout ça a été basculé. C'est comme un cocktail, tout a été mélangé. Et donc, en effet, il y aura des projets en automne qui normalement étaient prévus en avril ou en mai. Mais bon, ça reste... Je pense que la programmation reste très attractive, mais c'est vrai que c'est peut-être les lignes de conduite qu'on a habituellement, ils sont peut-être un peu moins visibles dans les saisons à venir, parce que c'est non seulement on a déplacé vers l'automne, mais aussi vers 2022 et parfois plus loin. Donc. Mais bon, je pense que ça va pas avoir trop d'influence sur la programmation. Sur le look and feel, on va dire, de la programmation. Donc là, je ne me fais pas trop de soucis, mais en effet, oui, ce sont des saisons mixtes, on va dire, un peu comme un bon Cuba Libre ou Mojito à la fin de l'été. Ouais.
Voilà, je pense que c'est une bonne note pour clôturer.
Ouais.
Un très grand merci. J'espère qu'un jour, qu'on peut revenir ici, de boire un verre, d'écouter les concerts en live.
Avec grand plaisir. Voilà. Moi aussi, je serai présent, ça c'est sûr. Voilà.
Un très grand merci, Marc de Van Roosselt.
Merci à toi.